I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Dans quelques jours, quelques heures exactement, la sonde américaine Phoenix inaugure le retour de la quête du vivant sur Mars. Ce sera le 25 mai à 23h36 GMT, très exactement. François Forget, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes planétologue chargé de recherche au CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace à Paris. Pourquoi cette sonde s'appelle Phoenix ? De quelle cendre renaît-elle ?
Alors, on pourrait dire que beaucoup de sondes spatiales pourraient s'appeler Phoenix. Il y a beaucoup de sondes en particulier qui ont été vers Mars, qui ont renaît des cendres de missions précédentes. Par exemple, la mission Mars Express européenne, elle a été rebâtie à partir des instruments européens qui étaient sur une sonde qui s'appelait Mars 96, qui est une sonde russe qui s'était écrasée dans l'océan. Mars Global Surveyor, elle aussi était rebâtie sur les cendres de Mars Observer quelques années auparavant. Donc, en fait, presque toutes les sondes martiennes pourraient s'appeler Phoenix. Alors, celle-là, elle mérite un peu plus de s'appeler Phoenix parce qu'elle s'appelle Phoenix à double titre. Elle renaît des cendres d'une première sonde qui s'appelait Mars Polar Lander, qui était prévue pour atterrir près du pôle sud de Mars en décembre 99. Et les choses n'étaient pas bien passées. Elle s'est écrasée, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. On a quelques idées, mais ça reste un peu un mystère. Et puis, à la suite de cette catastrophe-là, c'était une très mauvaise année, 99, on avait aussi perdu une autre sonde américaine qui s'appelle Mars Climate Sounder. Et à la suite de ça, la NASA, bien sûr, avait dû remettre à plat son programme et avait dû annuler un autre projet d'atterrisseur qui était très avancé, qui était l'atterrisseur pour 2001, donc 2 ans plus tard, sur lequel on avait prévu plein d'instruments qui n'avaient jamais volé. Et là, donc, Phoenix a récupéré les cendres. L'héritage aventurier de Mars Polar Lander et le thème, et puis les instruments de Mars, de l'atterrisseur 2001.
Donc c'est une sonde recomposée à partir d'éléments existants sur des missions qui ne sont pas arrivées ou qui n'ont pas pu se poser.
Absolument, et au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il y a certains instruments qui étaient déjà construits qui ont eu une deuxième chance de partir vers Mars à cette occasion. Ouais.
Alors, l'originalité de Phoenix, c'est bien de se poser au pôle nord de Mars. Alors, première question aux spécialistes, est-ce que c'est compliqué de se poser au pôle d'une planète comme Mars, contrairement à ce qu'on peut imaginer être se poser à l'équateur ?
Alors, par rapport à l'atterrissage à l'équateur, c'est pas beaucoup plus compliqué. Par contre, il faut juste que ce soit la bonne saison, et ce sera la bonne saison. Phoenix atterrira un petit peu avant le solstice d'été, ce sera la fin du printemps, il fera assez bon. Il ne faut pas y aller en plein hiver. Par contre, au niveau technique, de trajectoire et de rentrer dans l'atmosphère, etc., c'est pas beaucoup plus compliqué. Par contre, de manière générale, donc l'histoire de Mars Polar Lander en 99 nous le rappelle, c'est compliqué d'atterrir sur Mars, donc on n'est pas du tout, on croise les doigts, on n'est quand même pas certain que l'atterrissage va se passer de manière nominale, on l'espère. Il y a de bonnes chances, hein, parce que tout a été fait pour, mais c'est quand même, ça reste un vrai challenge.
Alors, pourquoi ne faut-il pas se poser en hiver ?
Alors, les régions, juste pour rappeler le décor, je rappelle que Mars est une petite planète, mais qui ressemble beaucoup à la Terre par certains points de vue, et en particulier du point de vue des saisons. Ce qui contrôle les saisons, c'est l'obliquité, c'est l'inclinaison de la planète sur son orbite, on va dire. Et l'obliquité est de 25,2 degrés, donc c'est à peu près autant que sur Terre. Bref, il y a à peu près le même type de saison. Par exemple, sur Terre, on a l'habitude de dire qu'il y a la nuit polaire qui va jusqu'au cercle polaire. Alors sur Terre, c'est la Norvège, l'Alaska, etc. Mais il y a la même chose sur Mars, il y a la nuit polaire qui va s'étendre à peu près jusque vers 65 degrés de latitude, hein, l'équivalent de la Norvège. Et puis il y a des tropiques et les saisons varient de la même manière. Donc on retrouve les réflexes un petit peu qu'on a sur Terre. Donc, pour les mêmes raisons que sur Terre, en plein hiver, sur Mars, ce sera la nuit polaire. Et si on prend le cas sur Terre, c'est pas une bonne idée d'atterrir en plein hiver parce qu'il fait froid, il y a de la neige, etc. Sur Mars, c'est tout à fait pareil. Il fait très froid. Il fait typiquement dans toutes les régions polaires martiennes, dans la nuit polaire, il va faire moins 135 tout le temps. Et en plus, il y a de la neige. Alors, c'est pas de la neige de glace d'eau telle qu'on connaît sur Terre. C'est de la neige de glace carbonique. La glace carbonique, c'est C'est une glace blanche d'aspect, hein, c'est ce qu'on trouve dans certains extincteurs. Alors pourquoi est-ce qu'on a une couche de glace carbonique qui peut faire jusqu'à 1 mètre d'épaisseur, hein, tout à fait, un peu comme sur Terre, mais c'est de la glace carbonique. C'est parce que l'atmosphère de Mars est constituée de gaz carbonique et dans les conditions martiennes, en hiver, il fait tellement froid dans la région polaire que l'atmosphère se condense, se congèle et forme une couche de glace, de neige carbonique. Donc on ne pourrait pas y aller en hiver, c'est pour ça que évidemment, la NASA a choisi d'aller au pôle Nord juste à l'époque de l'été, quoi.
Alors, premier objectif, c'est de se poser. Quand on regarde un petit peu les phases de rentrée, hein, Phoenix entrera en contact avec la fine atmosphère martienne aux alentours de 120 km d'altitude. Elle est protégée par un bouclier thermique. Donc, c'est par friction avec l'atmosphère qu'elle va décélérer. Ensuite, c'est un parachute qui prend le relais, tandis que le bouclier thermique, lui, qui devient inutile, est largué. Pour la phase finale, la sonde utilise un radar altimétrique qui détecte la surface et qui mesure la distance, et à 1 km le parachute est éjecté. C'est des rétrofusées qui s'allument. Là, il n'y a pas d'airbag. Est-ce qu'on redoute de se poser sur un sol au pôle? Est-ce qu'on sait à quoi il ressemble? Est-ce que cette technique de rentrée un peu particulière, hein, rétrofusée, donc c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement nouveau pour Mars, puisque Viking s'est posé de la même façon, mais est-ce que c'est une phase critique pour l'arrivée de Phoenix sur Mars?
Oui, tout à fait. Donc c'est un peu effectivement la technique qu'avait utilisée Viking avec succès dans les années 70. C'est un peu le modèle lunaire, hein, pour ceux qui imaginent ça. C'est des rétrofusées, il y a trois pieds, on pilote, il y a un radar qui annule la vitesse horizontale et verticale, et ça se pose doucement, il y a des capteurs qui sentent le contact, et hop, on coupe le moteur. Alors oui, on redoute ça. On le redoute d'abord parce que c'est difficile en général, parce que après la technique d'airbag, la dernière fois qu'on a essayé, c'est cette fameuse mission Mars Polar Lander qui a échoué. Et le suspect numéro un dans l'échec, c'était ce problème d'utilisation de capteurs pour poser la sonde, etc. On pense qu'on avait coupé les moteurs trop tôt. Bref, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc effectivement, on redoute énormément cette phase, rien que du point de vue technique. Il faut vraiment, comme toujours dans le spatial, mais particulièrement en l'occurrence, il faut que tout soit réglé comme vraiment à la seconde près, que les capteurs soient impeccables et qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors, il y a des redondances, etc., mais on a quand même très peur. Alors, on a peur aussi pour d'autres raisons. On a peur du terrain en particulier. Hein, pour atterrir, on ne sait pas exactement où on va atterrir, parce que l'entrée dans l'atmosphère, ça dépend un peu des conditions atmosphériques. Le parachute va être transporté par les vents. On ne sait pas exactement au mètre près, bien sûr, où on va atterrir. Et on a peur toujours d'atterrir sur un gros caillou, un gros bloc de roche. Et ça, c'est la chose qu'il faut éviter. D'ailleurs, le premier site d'atterrissage qui avait été sélectionné il y a quelques années, on va dire quelques mois même, semblait très très bien, très très lisse, très plat, sans danger, jusqu'à ce qu'on utilise la nouvelle caméra ultra haute résolution qui est maintenant en orbite autour de Mars, qui est sur Mars Reconnaissance Orbiter, qui s'appelle IRIS, et là qui est capable de voir des détails de 20 cm par rapport à des détails d'un mètre auparavant. Et lorsqu'on a regardé ce site d'atterrissage qui avait été sélectionné, on s'est rendu compte qu'il était couvert de gros blocs, tout à fait effrayants pour les personnes qui veulent faire atterrir Phoenix, parce que évidemment c'est un engin donc à trois pattes, et si une patte se pose sur un gros bloc d'un mètre de haut, ça va basculer et donc ça va être un problème. Alors on a fait une recherche assez intensive pour trouver un site dans cette région là sans gros bloc, et on a trouvé. D'ailleurs, soit dit en passant, cette découverte de gros blocs, c'était une grosse surprise, parce que je dois avouer que moi-même j'avais pas pris la parole, mais je pensais qu'il n'y avait aucune raison qu'il y ait des gros blocs dans cette région-là. Je ne vois pas pourquoi il y en a, et c'est un peu un mystère. Alors peut-être qu'il y aura quelques gros blocs qu'on pourra étudier, je ne sais pas d'où ils viennent.
C'est toujours la région qui s'appelle Green Valley, la vallée verte?
Oui, alors ça c'est justement cette nouvelle région-là, Green Valley, bon c'est un nom comme ça, qui n'est pas une vraie vallée d'ailleurs, hein, c'est quand même assez plat. Comme
elle n'est pas verte.
Elle n'est pas verte, et par contre elle est quand même assez lisse, là pour le coup. Encore une fois, on va voir des images. Les images qu'on va voir de cette région-là vont être sûrement extraordinaires, parce que c'est Mars, mais qu'on s'attende pas à voir un grand canyon et une arche de montagne juste à côté, parce qu'on choisit délibérément des régions les plus plates possibles, sans cailloux, pour être sûr de pouvoir atterrir. Et puis l'objectif, c'est là, c'est pas la vue sur la montagne. Hein. Donc là, on a vraiment choisi l'endroit le plus plat.
Alors, je sais que je vous demande une chose difficile, mais à quoi peut-on s'attendre et à quoi vous attendez-vous comme première image de Phoenix se posant sur une surface froide, dure, peut-être de glace? À quel sera le paysage?
Alors je vais botter en touche pour rigoler. La première image qu'on va voir, normalement ça devrait être une image du panneau solaire. Parce que, alors il se trouve que les panneaux solaires de Phoenix sont assez, sont d'un type un peu nouveau. Ils sont repliés en forme d'éventail et ils s'ouvrent comme un éventail et ils s'ouvrent comme ça, ils sont déployés, ils sont circulaires et ils vont être ouverts de chaque côté de la sonde. Et comme la survie pendant les premières heures et les premiers jours sur Mars, on dépend de ces panneaux solaires. La première chose qu'on va photographier, ce sont les panneaux solaires pour être sûr qu'il n'y ait pas un trou dedans et qu'il n'y ait pas eu un problème. S'ils sont déployés, ouf, tout ira bien. La photo suivante, ce sera le pied, le pied de la sonde pour voir si tout est stable, etc. Bon, alors voilà, j'arrête de voter en touche. Ensuite, donc un paysage qui sera assez plat, normalement. Hein. Ce sera une grosse surprise qu'il y ait des collines. Il peut y en avoir, il y a quelques collines, on verra un peu des vallons. On n'espère pas trop voir de... Enfin, on espère. Une fois qu'on sera posé, on sera content de voir des gros cailloux autour, mais normalement, il ne devrait pas y en avoir trop. On a choisi le site, encore une fois, en l'occurrence. Alors, par contre, on est dans la région polaire. Dans la région polaire, qu'est-ce qu'il y a de particulier quand on l'observe depuis orbite? C'est que dans cette région-là, et c'est là pour ça qu'on y va, on va en reparler, c'est une zone où on sait qu'il y a beaucoup de glace, de la glace d'eau, en grande concentration, quasiment une couche de glace sale, juste sous la surface. La surface elle-même, elle devrait ressembler à ce qu'on connaît sur Mars, c'est-à-dire des sables, des poussières un peu ocre, hein, comme d'habitude sur Mars, entre guillemets, quelques cailloux bien sûr. Mais en dessous, un petit peu en dessous, on sait qu'il y a de la glace et c'est l'objectif de la mission. Et le fait qu'il y ait de la glace, on sait que dans ces régions-là, ça crée des structures géographiques, ce qu'on appelle typiquement des structures en polygone. Si vous allez en Sibérie, enfin je crois que vous y allez très souvent, ou en Antarctique, dans toutes ces zones où il y a ce qu'on appelle du permafrost, du pergélisol en français, eh bien la glace qui est chauffée, qui se rétracte, qui se comprime, etc., joue, se modifie, se déforme et crée une structure qu'on appelle polygonale, hein, donc des espèces de... Imaginez une succession de bassins, là, un peu comme un... Il y a certains endroits, ça ressemble à un ballon de basket, à certains endroits, ça ressemble juste comme ça, une série d'hexagones qui font quelques mètres de diamètre, et qui sont normalement là, et normalement, vraiment, la zone où atterrit Phoenix devrait voir ça. Alors, une fois qu'on sera à la surface, à la hauteur de Phoenix, la caméra va se déployer, je ne sais pas, à 1,50 m de haut à peu près, à hauteur d'homme, est-ce qu'on verra bien ces structures? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on s'attend à voir. Pour le reste, encore une fois, moi, personnellement, je pense qu'on verra un sol ocre, comme d'habitude, un ciel plutôt rosé, peut-être pas mal de nuages. C'est une saison où il commence à y avoir pas mal de nuages. Il y a beaucoup de vapeur d'eau à cette époque-là. Ce sera la saison et l'endroit sur Mars où il y a le plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Alors, c'est infime hein, par rapport à la Terre, mais ça, dès qu'il fait un peu froid, il y a des nuages qui se forment. Le matin, je pense qu'on verra pas mal de nuages. Voilà un peu l'ambiance pour les premières images. Et puis ensuite, bah, on commencera à étudier... à s'intéresser à tout.
Le soleil visible, à cette époque, devrait grimper jusqu'à 45 degrés de hauteur. C'est pas beaucoup, mais ça réchauffe l'atmosphère quand même.
Ah oui, oui, oui. Ça réchauffe l'atmosphère. Alors, il y a plusieurs... Encore une fois, on est au-delà du cercle polaire. Hein. On est, je pense... Il y a une petite incertitude, mais vers 68, 69 degrés nord. Pour ceux qui connaissent bien Mars, on est au nord de la zone des grands volcans de Tarsis, Olympus Mons, par là, on est au nord. Au-delà du cercle polaire, effectivement, il y aura, peut-être pas au début et encore, on devrait avoir le soleil de minuit. Alors bien sûr, le soleil ne va pas monter très haut, mais avec le soleil de minuit, on a quand même un flux solaire constant. Et puis lorsque le soleil est au plus haut, vers midi, heure solaire, la température devrait monter jusque vers moins 20 degrés. Hein. Mmh. Moins 20 degrés, ce qui est pas mal sur Mars. La température du sol, hein, ou plutôt ou les particules, tous les composants, etc. Alors bien sûr, la nuit suivante, le soleil va descendre, raser l'horizon, ça va être magnifique. Hein. On va avoir une ambiance comme ça de soleil couchant. Alors je rappelle que sur Mars, le soleil couchant n'est pas rouge. C'est plutôt l'inverse de sur Terre. C'est-à-dire qu'on a, lorsque le soleil est haut, il est... Alors, le soleil lui-même est blanc, mais l'ambiance est plutôt ocre, à cause des poussières dans l'atmosphère qui sont ocres. Et par contre, lorsqu'on regarde en direction du soleil, et surtout lorsqu'il est rasant, eh bien, il y a un halo bleu qui se forme autour du soleil. Donc c'est l'inverse de la Terre. Hein. Et on aura ce halo bleu pendant des heures et des heures pendant la nuit polaire. Alors je pense qu'on ne l'aura pas souvent, parce que la plupart des nuits, entre guillemets, on arrêtera les instruments, il fera trop froid. Parce qu'il va faire jusqu'à moins 80, moins 90 degrés lorsque le soleil sera rasant. Et puis hop, le soleil remontera. Et on a à nouveau moins 30, moins 20, moins 15 degrés peut-être.
Alors que connaît-on aujourd'hui des régions polaires martiennes quand on regarde dans une petit télescope d'amateur, en grossissant quand même un petit peu, hein, on voit bien les petits points blancs qui caractérisent les pôles martiens. On sait que sur la Terre, on a l'Antarctique, mais c'est plutôt de la glace qui est installée sur un continent entouré d'un océan, qu'au pôle Nord, c'est différent, il y a de la glace de mer et de la glace installée sur le Groenland, là aussi un continent. Est-ce que ça a un sens de comparer les pôles martiens avec les pôles terrestres ou ce sont des choses complètement différentes? Qu'en connaît-on?
Alors non, ça a un sens de comparer les pôles martiens aux pôles terrestres. Déjà parce qu'ils sont différents. Les deux pôles ont une nature un peu différente. Et puis aussi parce qu'il y a comme ça, on a une succession de couches. Un peu comme en Antarctique, on va avoir un socle rocheux avec aussi un gros glacier qui date peut-être plusieurs millions d'années. Et puis au-dessus, une couche de neige qui va tomber chaque été, chaque hiver, etc. On a un peu l'équivalent sur Mars. Alors sur Mars, on a comme ça des successions de ce qu'on appelle des calottes polaires, et on en a plusieurs. C'est même une source de confusion souvent, il y a plusieurs sortes de calottes polaires sur Mars. Alors si je fais l'inventaire, hein, pour voir un peu ce dont on parle, si vraiment on parle de la région autour du pôle, autour de chaque pôle martien, on a un gros glacier composé de milliers, de centaines de milliers de fines strates de glace qui recouvrent le pôle Nord et le pôle Sud. Alors ça fait quelques milliers de mètres d'épaisseur, à chaque pôle, on va dire à peu près la taille de la France, hein, 1000 km de diamètre. Et on a pu confirmer récemment que c'est bien un glacier, ce dôme qu'on observait à chaque pôle, ce sont bien des glaciers. On a pu le confirmer notamment avec des radars. On a des radars actuellement en orbite autour de Mars, sur la sonde Mars Express et sur la sonde Mars Reconnaissance Orbiter. Et on a des données extraordinaires là, qui vont bientôt sortir et qui montrent la structure avec ces milliers de strates qu'on observe aussi avec en le voyant depuis l'espace. Et on voit donc ce gros glacier qui a probablement quelques millions d'années pour celui du pôle Nord, probablement quelques dizaines ou centaines de millions d'années pour celui du pôle Sud, et qui sont là. Donc ça, c'est un gros réservoir de glace, c'est de la glace presque pure, et voilà. Alors, au-dessus de cette glace, c'est là où les différences entre le pôle Sud et le pôle Nord commencent. Au pôle Nord, donc près de là où va Phoenix, mais pas au même endroit, au pôle Nord, ce gros dôme de glacier est recouvert d'une couche de givre blanc, propre, entre guillemets, qui se sublime, qui s'évapore, hein, on va dire, chaque été quand ça chauffe, et puis qui se recondense le reste de l'année, qui fait quelques dizaines de centimètres, mètres d'épaisseur, je ne saurais trop dire, et comme ça qui est en interaction avec l'atmosphère, qui est d'ailleurs à l'origine d'une espèce de cycle de l'eau sur Mars qui crée des nuages, etc. Voilà. Et donc, Phoenix sera à côté de cette source d'eau, d'où ce maximum de vapeur d'eau que j'ai mentionné tout à l'heure. Ensuite, donc ça c'est pour le pôle Nord. Le pôle Sud, vous retrouvez le même dôme de glace, mais lui il est recouvert soit de sédiments tout à fait secs, qui recouvrent une grande partie de ce dôme, là il n'y a pas d'eau, et puis il y a une petite zone à côté du pôle Sud, pas tout à fait au pôle Sud, qui est recouverte d'une couche de glace d'eau, assez fine, et qui elle-même est recouverte d'une couche de glace carbonique, permanent, d'un glacier de glace carbonique qui fait quelques dizaines de mètres d'épaisseur. Alors, tout ça semble bien compliqué. Le bon côté des choses, c'est que ce glacier de glace carbonique, donc il faut imaginer, hein, cette structure, donc ça fait à peu près 300 km de diamètre, hein, ça, c'est absolument extraordinaire. C'est extraordinairement exotique parce qu'on a là un glacier qui ne fond jamais. C'est de la glace carbonique. Quand ça chauffe trop, ça se gazéifie, ça se sublime, on dit, et ça se transforme en gaz carbonique. Et alors, ça crée des sculptures dans le relief invraisemblables, puisque vous avez pas des rivières, non, vous avez des espèces de cirques, de choses très, très rigolotes. Et ça, on voit ça qu'au pôle Sud, un espèce de réservoir d'atmosphère congelée au pôle Sud. Donc, c'est ce qu'on appelle donc la calotte pérenne du pôle Sud, donc de glace carbonique, qui s'oppose un peu à la calotte pérenne du pôle Nord, qui est du givre d'eau. Et là-dessus, il faut ajouter la dernière couche qu'on appelle aussi calotte polaire. C'est une calotte saisonnière. Chaque année, en automne, en hiver et puis un peu au printemps, vous avez les régions polaires qui se recouvrent du manteau de glace carbonique que je mentionnais tout à l'heure, qui peut faire jusqu'à 1 mètre d'épaisseur. C'est simplement l'atmosphère qui se congèle quand il fait froid. Et lorsque le printemps revient, le soleil revient, chauffe à nouveau ces régions-là, et cette couche de neige, de glace carbonique se sublime et disparaît complètement, sauf au pôle Sud où vous avez ce glacier permanent. Alors, est-ce que j'ai fini? Pas tout à fait. Il reste un dernier élément dont je dois parler et qui est très important pour cette mission Phoenix. C'est qu'on a découvert, d'une part en regardant la géomorphologie, c'est-à-dire les caractéristiques du relief dans ces régions-là, et d'autre part grâce à la physique nucléaire, c'est-à-dire avec des spectromètres à neutrons, des spectromètres gamma, des engins bien savants, mais qui permettent de détecter à distance la présence d'hydrogène. Bref, en rassemblant toutes ces données-là, on a découvert que dans les régions polaires martiennes, depuis le pôle à peu près jusque vers 60 degrés, un petit peu au-delà du cercle polaire, eh bien, sous une couche de poussière et de sable et de sédiments, quelques centimètres, on a une couche de glace presque pure, pas pure, hein, on va dire 60-80% en glace et 20% en poussière ou en sable, et qui recouvre comme ça les deux hémisphères. Alors elle est cachée, c'est pour ça qu'on a mis du temps à la découvrir. Elle est recouverte toujours de sédiments. La raison, c'est que la glace pure, la glace blanche qu'on aurait pu facilement voir, elle n'est pas stable à la surface, elle se sublime. Mais dès qu'elle est recouverte de quelques centimètres de sédiments, eh bien, elle a pu rester stable à ces endroits-là, parce qu'il fait froid, parce qu'il y a beaucoup de vapeur dans l'atmosphère dans ces régions-là, et surtout parce qu'il fait froid, et donc on pense qu'il y a de la glace là. Et là, on comprend que c'est bien l'objectif de Phoenix. Phoenix ne va pas aller sur le célèbre glacier polaire constitué de 1000 strates de glace d'eau dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il va aller à côté, dans cette région où on a détecté la présence d'une couche de glace dans le sous-sol. Et cette couche de glace, il faut reconnaître, est assez énigmatique. Et là, il y a plein de théories qui se disputent, qui sont envisagées pour comprendre son origine. Et là, l'objectif de Phoenix, c'est d'arriver, de sortir une grosse pelle, de creuser et de regarder ce qu'on voit.